Vous écoutez Interplayer 2, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous, ici Doniji. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Interplayer 2. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves, qui est aussi connu sous le pseudo de Baldock. Donc c'est pour parler de sa chaîne YouTube, donc du même nom, Baldock, mais aussi un petit peu de son parcours, de qui il est et de sa manière de parler, de voir aussi le jeu vidéo. Donc bienvenue à toi Pierre-Yves.
Merci, salut.
Donc Pierre-Yves, bien, comme d'habitude, histoire de faire un petit warm-up, ou on va dire que c'est le mode tutoriel, les premiers niveaux, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, quel est un peu ton parcours, que ce soit professionnel, scolaire, si tu as envie de raconter tes souvenirs, et puis un petit peu ce qui t'a fait amener aux jeux vidéo.
Alors du coup, les jeux vidéo, je baigne dedans depuis que je suis tout petit en fait. Donc mon parcours. Alors je pense que ça a commencé avec mon frangin en fait quand j'étais petit, qui me laissait jouer sur son PC. Je le voyais jouer sur son PC, sur sa Saturn, etc. Donc je voulais jouer aussi. Et depuis, dès qu'on m'a mis une manette dans les mains, je l'ai plus vraiment lâché. Et tout au long de mon parcours en fait, depuis les primaires jusqu'à aujourd'hui, tout le monde me disait oui Pierre-Yves, tu te rends pas compte, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu n'en feras jamais rien, etc. Et je me suis dit, tiens, qu'à cela ne tienne, je vais en faire quelque chose. Et du coup, j'ai quand même axé pas mal de trucs là-dessus, dans mes passions, etc. Je jouais beaucoup, j'allais à des conventions et des trucs comme ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ans, j'ai entamé des études en traduction. Et au cours de mes études, j'ai assisté à une conférence en fait du Liège Game Lab, donc c'est le collectif de recherche dont je fais partie aujourd'hui. Et donc je les connaissais pas du tout, je savais pas qu'ils existaient. En fait, c'est un collectif de recherche dans mon université. J'ai assisté à cette conférence et je me suis dit mais c'est trop bien en fait les jeux vidéo, on peut vraiment en faire quelque chose au sein de l'université. Et donc je me suis dit tiens je vais me lancer, je vais essayer de faire de la recherche dans le domaine des game studies. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que j'ai fait un mémoire sur la traduction de jeux vidéo, donc sur la traductologie. Donc la traductologie, c'est tout simplement la science de la traduction.
Et ouais, je suis un peu déçu en fait, tu vois, parce que quand on voit traductologie, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, on regarde, c'est science de la traduction. On dit, ah bon, ok, c'est bon.
Ouais, c'est vraiment ça en fait. Mais la traductologie, en fait, c'est super large, hein. Il y a vraiment beaucoup de manières de l'appréhender. Par exemple, moi, dans mon mémoire, j'ai abordé les jeux vidéo selon l'angle des différents langages qui le composent, en fait, et ce que ça implique pour la traduction de jeux vidéo. Mais il y a plein d'autres manières, en fait, d'envisager la
Quand
traduction.
tu parles de langage, tu parles vraiment des langues ou tu parles des langages informatiques, enfin, pour spécifier pour les auditeurs,
Alors,
les auditeuristes d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi des jeunes femmes qui nous écoutent, j'espère.
ouais, j'espère aussi. Les langages, c'est plus au niveau de tout ce qui véhicule du sens au sein du jeu vidéo. Donc, par exemple, un jeu vidéo, c'est constitué de quoi? C'est constitué d'images, c'est constitué de sons, c'est constitué de textes, mais c'est aussi constitué de possibilités d'action et d'interaction. Donc, les possibilités d'action et d'interaction, elles véhiculent aussi du sens, hein. Ce que tu peux faire dans un jeu, ça dit quelque chose de ce même jeu. Et donc en fait tout ça peut être pris en compte lors de la traduction d'un jeu vidéo, et selon moi ça doit être pris en compte. Et donc c'est sous cette perspective que j'ai décidé d'envisager la traduction de jeu vidéo. Et donc du coup j'ai fait mon mémoire là-dessus, et grâce à ce mémoire j'ai une de mes professeurs qui m'a proposé donc de faire un doctorat. Donc pendant un an j'ai vraiment galéré. Je me suis retrouvé donc j'étais Comment, j'étais réceptionniste en fait dans une salle de réalité virtuelle. Donc c'est une salle en fait où les gens peuvent venir jouer à plusieurs dans un même jeu. Ils sont dans 400 mètres carrés, ils ont un casque, un PC dans le dos, donc ils se baladent vraiment dans 400 mètres carrés sans câble. C'était assez sympa quand même de ce point de vue-là. Et donc moi j'étais à la réception et j'étais donc à mi-temps là-bas, que payer le loyer plus toutes les dépenses de la vie. Juste avec un mi-temps, c'était un peu compliqué, surtout que ma compagne de l'époque était également à mi-temps, donc on galérait pas mal. Et donc Pourquoi je restais à mi-temps? Bah, tout simplement parce que l'autre mi-temps, je préparais mon projet de doctorat. En fait, quand on veut se présenter pour un doctorat, faut vraiment avoir un projet qui est bien ficelé, qui est limite en béton armé. Et du coup, bah, j'ai préparé ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a en octobre, en fait, que je suis entré en fonction. Mais il y a donc en août, il y avait un entretien d'embauche à l'université de Liège pour le poste d'assistant qui te permet de faire, donc, non seulement de donner des cours, mais en plus de faire un doctorat sur le côté.
Et c'est ça, c'est en quoi en fait, dans quelle notion? Toujours pareil au niveau des langues et tout ça?
Oui, donc en fait, je suis assistant en langue allemande, en fait.
Ah d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, je l'ai pas précisé et tu ne l'as pas précisé non plus quand tu t'es présenté. C'est pour ça on entend peut-être à ton accent. Alors moi, j'ai l'accent un peu chantant du mec du sud-ouest en France, mais tu parlais de Liège, c'est parce que tu es quelqu'un, tu es un de nos amis belges. Enfin, on est amis depuis la
Oui.
Coupe du Monde de foot et donc voilà, et donc c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est vrai que si on lit tes tests peut-être pas, mais si on regarde tes vidéos, les 8 par exemple et quelques trucs comme ça, il y a des petits termes assez sympathiques qui montrent que tu n'es pas un faux belge. Je sais pas si ça existe, mais
Oui, en effet, je suis belge. Alors j'essaye de masquer mon accent la plupart du temps parce que sinon j'ai un accent absolument horrible. Enfin, absolument horrible. J'ai un accent très marqué, en fait, une fois que je suis fatigué ou quoi, il ressort très vite. Par exemple, je vais pas parler de livre, mais je vais dire un
un livre. Ah oui, d'accord, c'est
leaf. Un
assez.
leaf, donc vraiment avec un F. Donc voilà, bah, c'est un truc que j'ai appris en fait aussi en cours. Parce que j'ai suivi des cours d'interprétation et pour les cours d'interprétation, on pouvait pas avoir d'accent en fait. Donc fallait vraiment que je gomme ça.
Ah oui, d'accord, carrément. Bon, bah, c'est très intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et donc tu es toujours à l'université, donc assistant, et donc le poste à mi-temps, tu l'as toujours au niveau de la salvière?
Non, non, non. Ça, maintenant, je suis assistant à temps plein. Enfin, en fait, le poste d'assistant, si tu veux, il y a deux gros volets. Il y a le volet enseignant, donc je suis à 50% du temps, je suis enseignant, et à 50% du temps, je suis chercheur.
D'accord, ok. Tu fais partie donc de ce fameux, tu m'as dit, c'est le Liège Game Lab, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est un collectif de recherche de Liège qui fait, en fait, on fait tous des recherches sur le jeu vidéo, mais chacun dans son domaine. C'est-à-dire que moi, je viens de la traduction, mais je suis le seul traducteur, en fait, de l'équipe. Donc après, il y a Fanny Barnabé qui, elle, s'occupe plus de narration à proprement parler. Pierre-Yves Hurel, lui, il se concentre sur le jeu vidéo amateur, donc la création de jeu vidéo amateur. Julie Delbouille, c'est les relations entre avatar et le joueur. Enfin, on a vraiment beaucoup. Ça brasse assez large, en fait, au niveau de.
Oui, alors donc des profils très complémentaires. J'ai vu aussi, je sais pas si tu as participé, que vous avez, enfin en tout cas le Liège Game Lab a publié un petit livre là sur la culture vidéoludique. Tu as participé à ce genre de à ce cet ouvrage là qui est paru récemment en 2019?
Alors j'ai rejoint le collectif un peu trop tard pour participer à ce volet-là, mais par contre je vais participer au prochain volet. En fait, ils vont l'enrichir un petit peu et on va le faire traduire en anglais normalement. Et là j'y participerai.
Non mais c'est cool ça. Donc très rapidement, puisque je l'ai découvert ça avant, il y a aussi une chaîne YouTube. On va pas trop en parler puisqu'on va parler plutôt de la tienne. Hein, c'est pour ça que t'es invité. Mais il y a une chaîne YouTube avec des entretiens avec pas mal de personnes autour du Game Study justement. Et je crois aussi, si tu veux en parler rapidement, parce que j'avais vu que t'avais fait passer l'info, qu'il y a aussi un MOOC qui va être lancé bientôt. C'est ça?
Il a déjà été lancé en fait, mais oui, il y a un MOOC, donc un cours en ligne sur les jeux vidéo. Donc sur les jeux vidéo en tant qu'objet culturel, hein, c'est pas un cours qui va transformer les gens en développeurs de jeux vidéo, mais vraiment leur apprendre à aborder une perspective un peu plus culturelle, un peu plus science humaine, on va dire, autour du jeu vidéo, et qui permet de réfléchir un peu plus loin que bah, le jeu vidéo c'est juste un objet de divertissement et puis point barre. Non, le jeu vidéo c'est quelque chose de très riche en fait, il y a plein de pratiques autour, etc. Et c'est assez intéressant, franchement, le MOOC. Et normalement, je vais aussi ajouter un module au MOOC l'année prochaine, donc sur la traduction de jeux vidéo.
Ah bah d'accord, bah c'est cool. Donc bah voilà, pour ceux qui sont pas pu s'inscrire, je crois que les inscriptions c'est encore ouvert de toute façon, il me semble, jusqu'à mai, d'après ce que j'avais vu. Et sinon l'année prochaine pour le DLC de notre ami Pierre-Yves sur la
C'est ça,
traduction,
voilà.
c'est bien.
Un DLC non payant.
Non payant, voilà, c'est ça. Vous
Enfin,
devriez
le MOOC est
faire
gratuit de toute façon.
ben ouais, non mais vous devriez faire des MOOC lootbox, tu sais, genre les gars ils s'inscrivent mais ils savent pas vraiment ce qu'il y aura à l'intérieur quoi, tu vois.
Ça serait pas mal, ouais.
C'est un bon concept.
On pourrait faire un truc sur la permaculture en plein milieu du MOOC sur les jeux vidéo.
Et ça pourrait. Pour en revenir à toi plus précisément, donc avant de rentrer vraiment dans le côté jeu vidéo, donc au niveau de ton cursus, bon, on va pas dire, t'as été à l'école, super, bon, ok. Coco, c'est bien, c'est une chance, hein, pas tous ne l'ont malheureusement, mais au niveau de tes autres passions, qu'est-ce que c'était vraiment que jeu vidéo ou il y a vraiment d'autres choses que t'aimes vraiment mettre en avant? Je suppose que vu comment tu abordes le jeu vidéo avec sur la trilogie ou les game studies, tu dois avoir d'autres champs aussi d'activité, de hobby, mais bon.
Mes hobbies, alors première, le truc principal, c'est la pop culture. Donc dans ma vie, la pop culture joue un énorme rôle, que ce soit des films, des séries, mangas, etc. Ça j'adore. Mais il y a aussi la vulgarisation scientifique. J'adore regarder des vidéos de vulgarisation scientifique sur Internet. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait lancer ma chaîne, en fait. C'est parce que je regardais genre Dirty Biology, Y Penser, etc. C'est toutes des choses que j'adore. J'adore apprendre des choses tout le temps, en fait. Quand je passe trop de temps sans apprendre quelque chose, je m'ennuie et j'ai l'impression de me flétrir. Donc voilà. Et enfin, le dernier gros hobby que j'ai, bah, c'est la moto, quoi.
Ah oui, la moto, c'est d'accord, c'est donc c'est oui parce que j'avais vu passer aussi. Je te stalke pas du tout, hein, mais je crois que c'était puisque tu fais partie de Je suis un gamer, peut-être en parler un petit peu après, puisqu'on l'a invité, j'avais invité, j'avais dit on avait invité, mais en fait non, je parle de moi à la troisième personne, mais voilà. Donc on nous avions invité. Non, Eric qui avait fait le premier Interplayer 2, et donc c'est vrai que sur la page Facebook de Je suis un gamer, il avait mis justement dans les petites notices trivia sur les différents rédacteurs dont tu fais partie que tu avais eu le permis moto récemment. Donc voilà. Donc t'as déjà la moto ou c'est quelque chose qui est en cours d'achat? Parce que je suppose que avec les frais, ça fait des frais en plus, ça aussi.
Ouais, mais j'ai ma moto en fait. Je me suis pris une moto d'occasion et elle est dans le garage.
Bon, voilà, c'est impeccable ça. Donc voilà, donc ça pour les bonnes balades et tout et voilà. Puis donc tu pourrais faire sinon avant tu faisais un VR, tu faisais de la moto VR, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux moto VR, mais hein.
J'ai pas vraiment testé de jeu moto VR, mais ça peut être marrant. Par contre, ça doit donner un peu la gerbe. Mais...
Bah, je sais pas. Alors moi la VR en plus de toute manière ça me donne, enfin je peux pas trop, je la supporte pas, mais je sais que toi t'es justement bah, le fait d'avoir bossé dans une salle comme ça, je sais que t'es quand même vachement intéressé puisque donc avant de venir sur la chaîne, t'as écrit quand même sur des sites. Alors j'ai vu que t'avais écrit des tests sur Extra Life, si je dis pas de bêtises.
En fait, j'ai écrit pour plusieurs sites. En fait, j'ai commencé sur un petit site liégeois, en fait, qui s'appelait Screen Addict, mais ils n'ont pas pu continuer le site. Ensuite, je suis passé sur Game Actu, puis je suis arrivé sur Je suis un gamer avec Eric, etc., et sur Extra Life.
D'accord, c'est un truc que tu fais conjointement en fait ou tu continues à écrire sur Extra Life?
J'essaye de continuer à écrire, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le moment. Je voyage beaucoup avec mon travail, donc mon travail d'assistant, bah, je pars un peu partout. Et ça me demande vraiment beaucoup de travail. Pour le moment, je travaille généralement 7 jours sur 7.
Ah oui, d'accord, donc c'est bien, donc c'est bien d'avoir pris un peu de temps pour venir débarquer à la seconde manette sur l'émission pour ma chaîne, je t'en remercie d'ailleurs. Et
Ouais, mais c'est très cool.
mais donc ouais voilà parce que c'est vrai qu'en fait alors moi je veux dire on le dit assez jamais mais moi j'ai beau jeu puisque moi je n'écris pas de test ni d'article ni rien mais c'est vrai que quand on veut faire les choses bien ça prend du temps.
Ah oui, d'office. Bah, déjà, quand on teste un jeu, bah, déjà faut jouer au jeu. Faut y jouer d'une certaine manière en plus, parce qu'on joue pas juste pour se marrer. Hein. Je me pose pas juste dans le canapé en me disant, bah tiens, je vais me faire une partie sympa pendant 20 heures là. Non, je me mets devant le jeu et j'analyse quoi. Je joue en me demandant, bah, de quoi est-ce que je vais parler, qu'est-ce qui est intéressant de raconter sur ce jeu pour les joueurs, etc. Enfin, c'est pas juste du fun quoi. Il y a aussi une composante de travail. D'ailleurs, pendant un moment. Quand j'étais sur trois sites en même temps, j'avais beaucoup de tests et au bout d'un moment, j'en avais juste marre de jouer, quoi, parce que enfin, je jouais plus, en fait, je travaillais. C'était devenu un peu problématique.
Mais ouais, d'ailleurs, comment t'arrives à faire à arriver justement à prendre du plaisir sur des jeux. Alors déjà, les jeux, comment vous choisissez? Alors Eric m'a expliqué, tu me confirmeras, histoire que peut-être qu'il a menti, j'espère pas, mais qu'en fait quand même vous vous partagez suivant vos affinités quand même, parce que font la plupart des sites. Mais effectivement, en fait, le fait après de jouer. Quand tu découvres, donc quand tu testes un jeu, mais tu le découvres pour la première fois, c'est le fait aussi de garder quand même certaines notions de fun. Tu arrives vraiment à prendre du fun ou des fois tu sens justement que bah que t'es tiraillé entre les deux et que ça pas gâche l'expérience, mais quelque part si. Le fait d'être trop analytique en fait, est-ce que ça peut vraiment poser un problème?
Ouais, ça dépend beaucoup du contexte aussi. Quand j'ai le temps, bah ça va. Je veux dire, je me pose devant le jeu et je prends le temps aussi d'apprécier le truc. Mais quand on me donne une deadline, parce que parfois, bah, on dit, voilà, il y a un embargo sur quand tu reçois les jeux à l'avance, t'as une date embargo. Avant cette date, tu peux rien publier, mais à cette date, il faut publier parce que bah, sur Internet, qu'est-ce qui est important? Bah, c'est de publier en premier pour les tests, etc. Sinon, ça rapporte pas vraiment de vues. Donc dans ces cas-là, quand il y a une deadline, bah là c'est un peu plus stressant. Et là, je suis vraiment dans l'analyse. J'essaye d'avancer un maximum dans le jeu pour avoir un maximum de choses à raconter dessus, tout simplement. Mais quand j'ai le temps, par contre, là, je prends quand même bien mon temps, et là, la composante fun est tout de même là.
Ouais, bon après c'est pour ça aussi le fait d'être sur Je suis un gamer. Bon après j'ai l'impression que c'est vous êtes moins dans l'usine en fait, vous êtes plus sur la qualité, et choisir avec précision ce dont vous allez parler plutôt que de balancer du test à gogo, ou surtout de mettre des news dans tous les sens, parce que finalement en actu vous faites peu d'actu et c'est vraiment très ciblé quoi.
Ouais, clairement. Là, bah, alors, on fonctionne de manière très très libre. En fait, si tu veux, on a une conversation Facebook et on discute. Enfin, on lâche beaucoup beaucoup de conneries sur cette conversation. Généralement, on rigole bien. Mais donc, on partage vraiment les jeux de manière équitable. Si quelqu'un a vraiment envie d'un jeu, bah, il le dit. Généralement, il y a jamais besoin de discuter. En fait, quand quelqu'un a vraiment envie d'un jeu, on lui dit, bah, c'est bon, prends-le, c'est tout. Il n'y a jamais de tension ou quoi que ce soit au sein de Je suis un gamer.
Ouais, bah de toute façon après vous avez des profils là aussi complémentaires. Bah, je pense que Eric avait dit que c'était un peu comme ça aussi, qu'il avait monté l'équipe. Alors c'était d'abord aussi par rapport à la mentalité des gens, hein, je pense que. Donc voilà quoi. D'ailleurs il était dithyrambique à ton sujet, hein. Je vais pas te faire changer de taille de chaussures et te faire grossir les chevilles, ou même de taille de chapeau et de casquette, mais il avait été assez dithyrambique. Et donc pour ceux qui veulent savoir ce que disait Eric sur Pierre-Yves, vous pouvez écouter la première émission. Voilà, c'est une manière de faire de la promo dégueulasse pour moi-même. Non, dans ce qui est bien aussi dans Je suis un gamer, qui est très intéressant, c'est les dossiers. Et t'as pas mal participé aux dossiers et tout ça. Et c'est peut-être aussi après ce qu'on peut retrouver d'une manière plus audio et vidéo sur ta chaîne. Parce que sur les dossiers, t'as quand même fait toute une série, c'était sur l'industrie vidéoludique à la loupe. Donc tout le côté culturel, ce que tu dis en fait, qui revient un peu sur les droits d'auteur aussi, la mondialisation, enfin des thématiques un peu plus approfondies, on va dire. Et donc justement c'est pareil là, c'est un dossier, c'est quoi? C'est toi qui proposes des dossiers, ou c'est choisi de manière collégiale? Ça se passe comment?
Non, les dossiers en général, c'est nous qui proposons. En fait, quand on a envie d'aborder un sujet, ben on le propose, et puis généralement Eric est d'accord. Il y a juste le sujet sur les jeux vidéo et les seniors. Là, par contre, c'est Eric qui est venu nous en parler, qui est venu nous parler un peu de mi-jeu, etc., et qui nous a dit, ah oui, ce serait pas mal de faire un dossier sur les seniors et tout. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai voulu participer, en fait, surtout sur le côté un peu plus. Bah, moi, j'aime bien le côté un peu scientifique du truc. Donc, je suis allé lire plein d'articles scientifiques sur tout ce qui est amélioration des capacités cognitives avec les jeux vidéo. Tout ce qui est utilisation des jeux vidéo pour détecter des syndromes un peu précoces d'Alzheimer, etc. C'était super intéressant. Donc les dossiers, en fait, c'est un moyen d'approfondir la connaissance du jeu vidéo et de découvrir le jeu vidéo sous un nouveau jour à chaque fois, et je trouve ça excellent.
Ouais, non mais les dossiers sont, enfin moi je à chaque fois je les trouve super intéressants. Je crois en plus que ça fonctionne super bien d'après ce que m'avait dit Eric au niveau des vues et tout ça. Enfin les gens aiment. Et puis voilà, comme tu dis, en plus c'est quand même vraiment des dossiers avec des sources à l'appui. Ça paraît tout con dire ça parce que ça paraît logique, mais en même temps il y a tellement, on voit tellement d'infos passer là précisément dans le jeu vidéo, peut-être d'autres sujets, mais sur le jeu vidéo où les mecs n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de citer des sources, il y a du copier-coller. Donc c'est vrai que ça paraît logique, mais c'est agréable quand on voit ça. Et là c'est vrai qu'on retrouve un petit peu aussi ton côté, on va dire chercheur scientifique là-dessus. Et dernière chose avant de glisser sur la chaîne YouTube, t'as aussi tout le côté VR. Je sais que t'as fait quand même pas mal de trucs, t'as testé aussi du matos. Donc tu peux parler un peu justement, c'est venu comment cet amour pour la VR? C'est parce que t'as bossé dans une salle, ou c'est venu avant et t'as voulu bosser dans une salle?
Alors, je crois que je devais avoir 5-6 ans quand je me souviens encore de la scène. J'étais dans la cuisine en train de parler à mes parents, en train de dire, ce serait trop bien si on avait un casque et qu'on était propulsé dans le jeu. Et en fait, c'est depuis que je suis tout petit, je rêvais de réalité virtuelle. En fait, c'était un truc, j'avais juste envie d'entrer dans un jeu vidéo. Et quand j'ai appris que l'Oculus Rift allait sortir, j'étais fou, quoi. J'étais super enthousiaste. Et du coup, ben, quand j'ai vu l'offre d'emploi pour aller travailler dans une salle de VR, ben, là, je me suis dit, bon, ben, je fonce. Et alors, ben, vu que j'avais très, très envie d'avoir un casque, je me suis acheté un casque et j'ai proposé à Eric de faire des tests de VR, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, sur Je suis un gamer, il y a vraiment. On peut vraiment faire ce qu'on aime. On peut progresser aussi. Ben, par exemple, Colin a sa rubrique maintenant, donc les jeux en vrac. Moi, je suis passé en fait, il y a, je suis passé récemment rédac en chef adjoint en fait.
Ah oui, t'es monté un, t'es monté, t'as fait un level up, on va dire.
Ouais, bah en fait, j'ai proposé à Eric de l'aider, de l'assister un petit peu dans les relectures, etc. Parce que Eric fait un, il a pas un taf de malade, c'est incroyable. Au niveau des relations avec les différents studios, avec les boîtes de PR, etc. Enfin, il fait un boulot de malade, quoi. Et donc, bah, moi,
Oui,
je voulais
je me
l'aider un
demande
petit
parfois
peu.
s'il dort en fait, ou s'il a peut-être une carte action replay qui lui permet de, tu sais, de modifier des trucs pour faire plein de choses à la fois, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on voit un peu tout ce qu'il fait, on se dit, mais il doit pas avoir beaucoup d'heures de sommeil, ou enfin, on sait pas comment il se, ou il a des sauvegardes spéciales, ou il a des cheat codes, on sait pas, mais.
Ben on rigole souvent de ça parce que Eric et moi, on est un peu pareil sur ce point-là. On travaille tout le temps et on s'arrête jamais vraiment. Donc, ouais, non, mais je crois qu'il, par contre, lui, il doit avoir une action replay ou un truc comme ça caché quelque part. J'aimerais bien avoir la même pour réduire mon temps de sommeil. Ce serait pas mal.
Bah écoute, demande-lui, il doit y avoir une salle des trophées, la salle sur demande, tu sais, avec un retourneur de temps. Hein. C'est ça,
Ah, ce serait pas mal.
c'est Hermione en fait. Et mais pour il appréciera. En plus, Eric comme et toi encore plus, toi aussi d'ailleurs, vous partagez avec Hermione Granger une chevelure gargantuesque quoi. Donc
Ah oui, clairement.
c'est clairement. Donc d'ailleurs, elle, puisqu'on va arriver quand même. T'as lancé ta chaîne, donc c'était l'année dernière. Je te regardais un petit peu sur les infos, donc en mai 2018, donc bientôt un an. Ça sera peut-être un an le temps que je monte la vidéo, parce que là nous sommes en avril quand nous l'enregistrons, mais je pense que elle sera diffusée en mai. Donc pour les un an de la chaîne, tu vois, c'est fantastique. C'est pas fait exprès, mais c'est
Cool.
comme ça. Et donc, donc ton pseudo c'est Baldock. Alors je me suis dit c'est peut-être lié à bald, qui veut dire chevelu en anglais.
Ouais, bah clairement en fait c'est un jeu de mots entre bald qui veut dire chauve en fait et doc qui parce que bah je fais un doctorat et que j'analyse les jeux vidéo sous un angle scientifique donc voilà j'ai juste collé les deux et ça fonctionnait.
C'est un mot-valise, mais c'est un très beau mot-valise. Et d'ailleurs, en plus, j'avais même pas capté que Doc c'était par rapport à ça. Tu vois, je me disais ça doit être de l'argot liégeois, Baldock. Je sais pas.
Non.
Ok, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien. Et moi, je suis toujours jaloux. Bon, j'ai jamais été jusqu'à la thèse, hein. Et ça m'est même pas venu à l'esprit. Mais quand t'as la thèse, tu es docteur, quoi. Tu vois, ça fait Dr. Jones. Tu vois, c'est trop la classe, quoi. Tu vois, j'aurais voulu faire une thèse rien que pour m'appeler docteur, pour faire comme Indiana Jones, Dr. Jones. C'est vraiment trop la classe, tu vois.
Moi, je rêve de. Je m'imagine toujours plus tard, tu sais, dans un train, et puis on fait, y a-t-il un docteur? Y a-t-il un médecin dans le train? Et puis moi, j'arrive, je fais, laissez-moi passer, je suis docteur! Et je pourrais traduire ce que le mec dit, où il a
Mais
mal,
voilà.
mais je saurais rien faire du tout!
Mais alors, tu vois, si le mec il a mal, l'avantage c'est que même moi, c'est un docteur, je pourrais le traduire parce que s'il fait ah, tu pourras traduire par ah, ou alors un cri de Willem, parce qu'on sait pas, mais
Mais les onomatopées, elles sont différentes selon les pays. Hein. Donc, du coup, par exemple, en allemand, au lieu de dire aïe, il va dire awa.
Ah ouais, c'est vrai, bah tu vois, mais il faudrait faire tu vois, une spéciale onomatopée dans les jeux vidéo. Tu sais, tous les mecs,
Ça
les
pourrait être pas
personnages,
mal.
les PNJ ultra secondaires qui font des vieux cris et tu dis, ben, est-ce que c'est les mêmes? Donc théoriquement, si on change de pays, ça devrait pas être les mêmes alors.
Ça dépend si les traducteurs et les gens de la section marketing décident qu'il faut changer des trucs parce que parfois on change mais énormément de choses dans un jeu, c'est assez étonnant. Parfois on change même le gameplay hein, d'une version linguistique à l'autre, c'est incroyable.
Ben, c'est vraiment, c'est pour ça, tu vois, c'est un truc auquel on pense pas, et donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des chaînes qui justement commencent à en parler un peu. Donc ta chaîne, donc comme pour en revenir quand même, tu l'as créée, donc ça s'appelle Baldock, hein, tout simplement, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, tu l'as créée l'an dernier, donc si j'ai quand on regarde un peu le contenu, ce que j'ai trouvé, tu me diras si c'était fait exprès, mais je suppose, c'est que donc on reconnaît ce que tu dis un petit peu le côté de la vulgarisation. D'ailleurs, t'as une de tes premières rubriques qui s'appelait Vulgamisation. Je sais pas pourquoi j'ai pris un vieil accent anglais pourri, mais vulgarisation. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est comme ça.
À partir de maintenant, dans mes vidéos, j'en parlerai comme ça.
C'est
Vulgarisation.
la vulgarisation. Ouais, je sais pas pourquoi, mais donc on reconnaît ce qu'on est vulgarisation, et après ce côté aussi quand même pédagogique, mais en même temps avec aussi pas mal d'humour de second degré ou de troisième degré, de quatrième degré, ça c'est autant de degrés que tu veux. Donc voilà, donc explique-moi un petit peu quand tu t'es lancé, en fait, je suppose que tu as réfléchi un petit peu avant de te lancer. Enfin, en général, les gens font ça, peut-être pas tous, mais voilà quoi. Et justement, en fait, comment c'est venu cette idée de te lancer vraiment sur YouTube, qui est différent que d'écrire des tests ou des jeux, c'est pas du tout le même procédé. En tout cas, moi j'ai l'impression, tu vas me dire si toi c'est comme ça que tu l'as vu.
Alors, premièrement, ouais, je l'ai réfléchi. En fait, le truc, c'est que je regardais beaucoup de vidéos sur le jeu vidéo, comme Game Next Door, Game Spectrum, etc., qui sont d'excellentes chaînes. Mais en fait, ce que je voyais, ce que j'avais envie d'apporter dans le domaine, c'était ce côté un peu plus décomplexé, en fait, parce que dans les chaînes de ce type qui veulent parler du jeu vidéo, et on voit ça aussi dans les articles scientifiques, c'est qu'il y a une certaine volonté de légitimation, en fait, du média, vu qu'il est considéré un peu comme sale, hein, si je puis dire, quand on va à l'UNIF, et que quand je vais à l'UNIF et que je dis que j'étudie le jeu vidéo, ben, généralement, quelqu'un qui va étudier la littérature plutôt va me regarder un peu en mode ah bah tiens, il y a des trucs à dire sur le jeu vidéo. Enfin, c'est considéré encore, c'est pas encore légitime quoi au sein de l'UNIF. Faut encore se battre un petit peu. Et bah, c'est quelque chose que je retrouvais aussi dans les vidéos YouTube, et j'avais envie de parler de choses sérieuses autour du jeu vidéo, mais de manière beaucoup plus décomplexée, avec plus d'humour et aussi de manière assez dynamique. Donc il y a certains passages dans ma vidéo qui sont inspirés de, je sais pas si tu connais Zero Punctuation, sur je crois que c'est la chaîne The Escapist.
Non, je connais pas, j'avoue que je suis non, pas du tout. Mais d'ailleurs, effectivement, j'allais le dire justement au niveau du montage d'ailleurs et de ça, on sent. Après, c'est pas que tu fais pour être drôle, c'est juste que c'est ta personnalité. Parce que quand on lit tes tests, même tes dossiers, même si c'est sérieux, même dans ton écriture, on reconnaît quand même, il y a toujours quand même des. C'est pas des vannes en fait, mais espèce de, comme tu dis, ce côté un peu plus fun qui transparaît. Mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est ta personnalité. Enfin, je pense pas que tu sais un rôle que tu joues, ça te vient assez naturellement. Enfin, tu peux me contredire, hein, t'as le droit, mais.
Ouais, non, clairement, je suis comme ça dans la vie de tous les jours en général, hein. Je suis quelqu'un de... Enfin, ça dépend, en fait. Là, quand je rencontre les gens, je suis assez timide de base. Et puis ensuite, une fois que j'ai un peu appris à connaître la personne et que je sais un peu comment elle réagit, bah là, on commence à voir le pied-rif qui prend de la place. En général, une fois qu'on me connaît, on sait que je suis là. Je fais du bruit.
D'accord, je vois le genre. D'ailleurs, quand tu parlais de tes vidéos, justement, donc même s'il y a des gags, tout ça, s'il y a quand même des gags, il y avait par exemple dans tes premières un running gag qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois tu commençais en disant alors pour cette FAQ, alors qu'en fait tu n'avais pas de vidéo. Et c'était un meilleur un peu de se foutre de la gueule aussi de pas mal de chaînes où c'est vrai, où des fois t'as des mecs, ils ont pas lancé leur chaîne, ou ils ont créé leur chaîne, mais il n'y a pas de contenu. Ou genre il y a juste un teaser de 30 secondes et genre le mec il a déjà ah merci j'ai 1000 abonnés et tout ça et t'es là ouais mais t'as pas fait de contenu. Enfin moi c'est pas une critique, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que ça fait toujours rire. Et c'est vrai que tu commençais tes deux premières vidéos avec ce côté-là en disant ouais alors ma FAQ alors que ben non. J'apprécie ton humour. Ça veut pas dire que t'as un bon humour, hein, parce que c'est moi qui ai un humour de merde et que je l'apprécie. Mais voilà, et même au niveau, donc quand tu parles du montage, tout ça, c'est un truc, t'as une formation de montage ou t'es mis à faire du montage, parce que c'est un truc qui est très cuté et très, c'est vachement dynamique en fait.
J'avais absolument aucune notion. D'ailleurs, ma première vidéo m'a pris. Enfin, déjà, je l'ai remontée 3 fois. Enfin, je l'ai tournée 3 fois, et puis je l'ai montée. Je sais pas pendant combien d'heures, mais ça m'a pris des heures parce que je regardais des tutos en ligne, en fait, sur YouTube toujours pour savoir comment je devais faire. J'avais aucune idée de dans quoi je me lançais. Je savais pas combien de temps ça allait me prendre, et ça m'a pris du temps.
Ouais, mais ça sent, hein, à chaque fois que je vois tes vidéos, je me dis, putain, il y a du boulot au montage, tu vois. Moi, je suis plutôt du genre à, je me file d'une traite. De toute façon, comme moi, je fais déjà des digressions, j'ai pas besoin, en fait. Donc après, c'est plus couper, mettre des trucs, mais je suis toujours je me dis, à chaque fois que je vois des vidéos comme ça, je me dis, putain, là. Et après, c'est pareil, que t'aimes ou pas, il y a des youtubeurs, c'est pareil, ou youtubeuses, que t'aimes pas ce qu'ils racontent ou pas, mais tu peux pas dire qu'ils font pas un putain de boulot au niveau, tout ce qui est technique, et tout ça, parce que, waouh. À part s'ils ont des gens qui les aident, des fois, à faire le montage, mais, c'est du boulot monstre, et quand on voit tes vidéos, on sent qu'il y a vraiment du boulot du montage, quoi. C'est vraiment un gros truc. D'ailleurs, pour rester dans le côté technique avant de rentrer plus dans le fond, c'est quoi ton matos? Parce que justement, on s'est rendu compte quand on voit tes vidéos que tu t'en vantes dans l'une de tes vidéos, mais t'as changé un peu les caméras, les micros. Donc en fait, c'est un peu quoi ton setup quand tu fais les vidéos et avec quoi tu tournes, on va dire.
Alors, mon matos, c'est en gros, j'ai un micro-cravate. Donc, qui n'est pas relié à la caméra, donc ça veut dire que c'est une sorte de dictaphone, donc je suis obligé de synchroniser ça après avec mes rushs. Donc je fais tout, je fais en général un rush d'un coup. Enfin, je fais tout en un seul rush. Je coupe pas la caméra entre les différentes prises, etc. Et la synchronisation se fait automatiquement en fait avec mon logiciel de montage. Et ensuite, j'ai ma caméra 4K qui est montée sur une lumière, comment ça s'appelle encore ce truc-là? C'est les lampes qui sont rondes, là, qui...
Ouais, genre
Je sais
je vois ce que tu dis. Alors c'est pareil, c'est un truc que moi j'utilise pas, mais ça se voit aussi dans la qualité. On sent vraiment qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est un truc technique tout bête, mais c'est vrai que la lumière, ça, plus que même la qualité de la caméra, enfin parce qu'après il y a des bonnes qualités, la lumière c'est ce qui fait tout en fait, et c'est vrai que ça donne pas une clarté, mais je veux dire une bonne définition de l'image en fait, que si t'as une super caméra mais que t'as une lumière pourrie, ben, ça te fera une image pourrie.
Ouais, c'est ça, bah, quand on regarde ma première vidéo, bah, là j'avais complètement foiré la lumière, quoi. On aurait dit que j'étais dans ma cave.
C'était bien, hein, la cave du doc, c'était pas mal aussi, hein.
Ouais, c'est ça, ça aurait pu donner quelque chose en fait. Non, mais au niveau du matos, en fait, je pense que ce qui est super important, c'est le micro. De base, mon micro est pas ouf, hein, c'est pas le meilleur micro du monde, mais ça donne quand même une certaine qualité audio. Ce que j'aimais bien dans le micro cravate, c'est que ça me permettait de bouger sans que ça change le son. Du coup, je peux être à 3 km de ma caméra, ça change rien. Vu que j'ai mon micro au niveau du col, bah, ça a toujours le même niveau sonore. Donc ça m'enlève du taf au niveau du montage aussi, ça. Donc le son, en fait, dans tous les tutos que j'ai regardés en ligne, à chaque fois on disait le son c'est le plus important, et ouais, c'est le plus important. En fait, quand t'as une image un peu dégueu, mais que le son est bon, tu peux passer outre encore le fait que l'image est pas belle. Par contre, le son qui est horrible, c'est insupportable en fait d'écouter un son qui est pas bon.
Ah ouais, non, mais je confirme. Puis après, le montage de la vidéo, tu peux toujours après mettre des inserts, des images, des extraits, et puis voilà, quoi. Enfin, il y a toujours
C'est
moyen
ça.
de couper un petit peu de ça. Et donc après, pour le montage, et après, on quittera vraiment ce côté-là technique, mais pour le montage, donc tu tournes avec quoi? T'as vraiment un gros logiciel de montage, ou c'est un gratuit? Tu tournes d'ailleurs, t'es sur Mac, PC? T'es quoi, en fait?
Je suis sur PC et je monte sur Adobe Premiere en fait. Alors la raison est super simple, c'est qu'il y avait plus de tutos pour Adobe Premiere que pour les autres. Donc je me suis
Oui,
lancé sur
d'accord.
celui-là.
Bah, ok, ouais. Donc, ouais, non, mais c'est déjà une bonne grosse usine. Enfin, t'as vraiment beaucoup d'options avec Adobe Premiere.
Ah, ça marche bien. Là, j'avoue, je suis assez satisfait.
Bon, mais c'est cool. Et donc, au niveau donc du fond, donc parle-moi un peu des différentes rubriques que t'as fait. Donc, pour l'instant, en fait, donc, comme tu prends du temps à faire du montage et à faire quelque chose de quand même de propre et de classe, là, si t'as à peu près 6-7 vidéos, je crois que la dernière que t'as poussée, c'était la 7e. Et donc, tu peux parler un petit peu justement comment t'as axé en fait la chaîne. Et les différentes rubriques, en fait, comment t'as pensé la chaîne et comment tu l'exécutes?
Alors là, les premières vidéos, donc les vidéos vulgamisation, c'était vraiment. Je voulais vraiment parler de game studies et de recherche scientifique, etc. Donc ça, c'est vraiment la rubrique la plus technique en fait de la chaîne. Maintenant, j'ai remarqué que mes deux premières vidéos, bah, c'est quand même les plus techniques et les moins accessibles. Donc j'ai voulu un peu atténuer un peu ce côté scientifique et assez scolaire au départ. Donc en sortant quelques vidéos un peu plus détendues, donc la vidéo sur Spider-Man par exemple, c'était quelque chose que j'ai essayé d'avoir un équilibre un peu différent au niveau de la théorie et des vannes. Donc je voulais un truc qui te laissait regarder un peu plus facilement pour accrocher un petit peu le public, etc. Et puis il y a aussi cette rubrique que j'aime beaucoup, mais pour le moment qui est un peu en jachère parce que je ne trouve plus vraiment de théories à appliquer, mais c'est les théories loufoques, en fait, les what the fuck studies, où je vais choper des théories qui sont vraiment très très louches quand elles sont appliquées aux jeux vidéo, genre la vidéo sur God of War où je parlais de la théorie de Freud et du fait que les joueurs ben, voulaient avoir des relations sexuelles avec leur mère en jouant à God of War. Ça me faisait beaucoup rire cette idée-là, ben, c'est complètement loufoque, hein, mais ça me faisait bien rire.
Et d'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi les gens comprennent pas, mais pourquoi il a eu le jeu de l'année, tout ça? Parce qu'en fait, on a voulu décerner un jeu de l'année à des joueurs et des joueuses et des jeux qui veulent coucher avec, qui veulent tuer leur papa et coucher avec leur maman.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Et ta vidéo explique pourquoi. T'aurais dû envoyer ta vidéo au Game Awards, en fait, pour leur expliquer, en fait, voilà pourquoi le Game Awards du meilleur jeu vidéo est à God of War 4 et pas, en fait, à Red Dead Redemption ou à quoi que ce soit d'autre, parce que voilà, c'est...
Ça aurait été pas mal, ouais. J'aurais dû le faire. Et alors la dernière rubrique sur ma chaîne, enfin, on peut dire que c'est une rubrique, c'est bah, la vidéo sur la Suisse, en fait, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est grâce à mon travail d'assistant et à mon rôle de rédac chez Je suis un gamer, j'ai pu partir en Suisse en fait pour aller rencontrer des studios de développement de jeux vidéo, c'était très cool, et j'en ai profité pour prendre ma caméra, mon micro et de tourner quelques plans et en faire une vidéo un peu vlog. En fait, je voulais En fait, je voulais conserver le petit côté, ah bah tiens, je vous prends avec moi, je vous mets dans ma poche et vous venez avec. Maintenant, je manque beaucoup d'expérience sur le côté vlog, donc il y a pas beaucoup de plans où je me suis filmé en train de parler là-bas, etc. D'ailleurs, les premiers plans, on voit que je me filme un peu d'en bas, etc. Enfin, j'ai un peu tâtonné, je me suis amélioré au fur et à mesure de la semaine que j'ai passée en Suisse. Mais ça a été une belle expérience et j'aime bien faire ça. Je pense que je vais le refaire en août 2019. Je pars au Japon toujours pour mon travail à l'UNIF. Je vais donner une conférence en fait à Kyoto. Et bah, j'en profite pour prendre ma caméra et aussi faire un petit truc là-bas sur les jeux vidéo, etc.
Non, mais ça c'est super classe. Je conseille d'ailleurs aux gens. De toute façon, après, vous aurez comme d'habitude, en description de la chaîne, il y aura tous tes contacts, soit sur Je suis un gamer, Twitter et évidemment la chaîne YouTube. Et je conseille effectivement, parce que déjà c'est super intéressant de découvrir un petit peu le fonctionnement, puisque c'est pas très loin de chez nous la Suisse, mais effectivement ils ont un fonctionnement et une vision du vidéo qui diffère un petit peu de celle qu'on pourrait avoir ou à laquelle on pourrait s'attendre. Et je crois que tu l'expliques vachement bien dans cette vidéo-là, de ce côté vlog, c'était assez sympa. C'est tout con, tu vois, tu dis que t'as pas l'habitude, mais rien que le gimmick que t'as utilisé pour faire les transitions de montage, tu vois, c'est un truc que j'aurais même pas pensé, c'est tout con, hein. C'est pas pour rabaisser ce que t'as fait, hein, mais je veux dire, tu vois, quand j'ai vu, je me dis, ah ouais, c'est cool, mais c'est simple, mais j'aurais pas pensé en fait, cette espèce de clap face à la caméra, tu vois, je trouve ça classe.
Bah encore une fois, c'est tuto, hein. Je vais voir des tutos sur YouTube.
Bah ouais, mais tu vois, comme quoi, je suis vraiment le dernier. Moi, je suis vraiment limite plan séquence, et même pas plan fixe, tu vois, tu sais, je pose la caméra et puis c'est terminé, quoi, tu vois. Qu'effectivement, toi, t'as un côté plus dynamique, tu vois, moi, je suis vraiment. À l'ancienne, mais ouais, donc c'était super intéressant et c'est super cool effectivement si tu peux nous faire visiter, découvrir ce même format-là. Enfin, j'espère. Je sais pas comment ça fonctionne. De toute façon, au niveau des retours que t'as par rapport, bon, les vues, mais les vues, ça veut rien dire parce que en fait, des gens peuvent voir, mais ils peuvent. On sait très bien que sur YouTube, au niveau de 2 minutes, après, ils arrêtent. Hein, c'est souvent
Ouais.
comme ça. Mais même au niveau après des interactions que t'as et tout ça, justement, t'as eu des bons retours à la fois sur de manière générale, sur tes contenus, mais aussi justement sur ce vlog-là. Et puis cette envie d'en découvrir plus de ce que tu feras à l'avenir. En tout cas, c'est super cool de partir au Japon. Enfin, c'est quand même la classe, quoi.
Ah bah j'avoue que je m'amuse bien, je suis tout à fait satisfait de la situation dans laquelle je me trouve pour le moment. C'est quelque chose dont j'aurais jamais rêvé, quoi. Enfin, quand j'étais petit, je me disais, ah, j'aimerais bien être testeur de jeux vidéo plus tard, ça serait trop bien. Et puis, en fait, aujourd'hui, bah, je suis payé, ouais, pour faire des tests de jeux vidéo, pour partir visiter des studios, pour faire de la recherche sur le jeu vidéo. Enfin, mon monde tourne autour du jeu vidéo, en fait, tout, même mes loisirs et tout, enfin, tout tourne autour du jeu vidéo et c'est très bien comme ça, j'adore ça.
Ah ouais, mais de toute façon, après ça se sent dans ce que tu dis, et comme tu le dis à chaque fois, en fait, ce mélange à la fois de ta personnalité, ta passion, la fameuse passion, quoi, le mot qu'on retrouve un peu partout,
Ouais.
mais aussi ce côté plus scientifique, ce côté recherche. Et d'ailleurs, justement, de ce point de vue-là, donc là le Japon, t'as d'autres, au niveau de ta thèse, tout ça, tu vas avoir d'autres perspectives de voyager encore, de découvrir différentes, on va dire, pans et cultures en fait de cette industrie du ludique, puisque c'est pas la même que ce soit en Suisse par rapport à la France. Au Japon, ça sera encore différent effectivement. T'as d'autres pays comme ça où qui sont prévus ou que t'aurais envie de découvrir sur ce même format-là?
Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais partir à Montréal à un moment ou à un autre. Ça, c'est certain, parce que Montréal, bah, c'est la ville du jeu vidéo. Hein. Ça a été vraiment le précurseur en fait en termes d'aide publique aux jeux vidéo, etc. Enfin, c'est assez incroyable et ça se ressent encore aujourd'hui. Il y a plein de développeurs qui partent pour Montréal. Là-bas, il y a des laboratoires de recherche aussi sur le jeu vidéo, où j'ai des amis là-bas, donc j'irai les voir, et je visiterai un petit peu des studios, etc. Donc là, c'est sûr que j'irai. La Suisse, je vais y retourner. C'est notamment suite à la vidéo du vlog, j'ai eu certains studios qui m'ont contacté, des studios en Suisse francophone, qui m'ont contacté, ils m'ont dit, ah, ce serait cool si tu passais à notre studio la prochaine fois que tu viens en Suisse. Donc
Ah, c'est cool
je n'y
ça.
manquerai pas. Ouais, j'ai eu pas mal. En fait, autant au niveau des vues sur YouTube, bah, ça suit pas forcément au niveau de. Enfin, quand on regarde la relation entre travail fourni et résultat en termes de vues, bah, c'est sûr que ça suit pas. Mais bon, c'est pas non plus pour ça que je fais ça. Mais du coup, par contre, sur Twitter, en fait, cette vidéo-là, ça a juste été ouf. En fait, j'ai eu plein de gens qui m'ont retweeté, j'ai eu des associations qui ont commencé à me follow, des associations du jeu vidéo, j'ai des studios qui ont retweeté, qui ont liké, qui ont commenté en disant qu'ils adoraient, qu'ils étaient contents, ils m'ont contacté en me disant merci. pour la manière dont je les avais présentés. Enfin voilà, c'est très très cool.
Ouais, ça permet de toute façon, c'est comme pour tout, après ça permet de tisser des liens, de créer des liens. Enfin, je suppose que enfin, c'est comme tout, on va dire, art culturel, même business culturel, parce qu'il y a le côté business d'un jeu vidéo, mais c'est toujours façon ce côté de tisser des liens, de créer des connexions avec les gens. Donc après, c'est cool de voir que ça marche et que. Enfin, je pense que c'est. Je dis pas que c'est plus ou moins gratifiant parce que chacun en voit comme il veut et ressent les choses. C'est toujours agréable quand les gens disent que c'est bien. Hein. Et peu importe qui soient ces personnes-là, mais je suppose qu'effectivement, quand c'est en plus des professionnels avec qui tu es amené à travailler pour tes recherches et tout ça, et je suppose que c'est quand même un truc qui est super cool et super, ouais, gratifiant en fait.
Ah bah oui, clairement, ça c'est pendant tout un moment je comprenais pas trop ce qui m'arrivait quoi, c'était enfin j'ai encore un peu du mal à réaliser ce qui m'arrive quoi. Je me retrouve à parler avec des gens que j'idéalisais depuis que j'étais tout petit, enfin les développeurs etc. C'était un truc, je me disais j'y arriverai jamais quoi, j'aurai jamais de vrai contact avec eux. Et en fait bah si, ça se passe très bien et j'en profite pour tisser des liens autant du point de vue point de vue rédaction et testeur de jeu que de mon rôle en tant que chercheur quoi. Donc du coup bah j'ai des contacts avec en fait pendant que je suis parti en Suisse, j'ai rencontré des laboratoires de recherche aussi qui font des recherches sur les jeux vidéo mais plus du côté développement, donc un peu différent. Nous on est plus du côté sciences humaines, eux ils sont vraiment dans le développement de jeu et de point de vue technique, donc codage, graphisme etc. Et donc j'en ai profité pour les inviter à Liège en fait, tout simplement. Je leur ai dit ah, c'est trop cool ce que vous faites, faudrait que vous veniez. Ils ont fait ok super. Et en fait on est juste une grosse bande de geeks en fait dans ce domaine et on est tous en mode c'est trop bien, venez. Et c'est super.
Non, mais c'est vraiment su super cool. Et justement, quand tu parles de ça, au niveau de les suivre, alors déjà, pour les vidéos, ça serait un plus gros projet, mais t'aurais pas justement envie, par exemple, d'aller suivre, alors sur la durée, ça va être un peu plus dur, à part si c'est un studio en Belgique ou s'il doit aller, ben, sur plusieurs semaines, mais genre de suivre vraiment, faire, tu sais, de faire vraiment un reportage en particulier, une sorte de making of, tu vois, un truc comme ça, c'est un truc qui te plairait de faire ou ça t'a pas traversé l'esprit, tout simplement, encore, tu sais, de vraiment, genre, au cœur de, parce que je trouve que c'est ce qui, on en voit de quelques-unes, il y a des chaînes, comment s'appelle la chaîne qui font ça, qui sont vraiment bien, c'est No quelque chose, ils avaient fait un truc sur The Witcher et tout ça, je sais pas si tu connais.
Ça me dit rien là sur le coup.
Ah, je l'ai pas, c'est stupide, je m'excuse de suite parce que je trouve ça super bien, ils avaient fait aussi sur Half-Life, ils font des sortes, pas de making-of, mais de documentaires précis là-dessus, c'est vraiment super bien. Ça s'appelle No quelque chose et je suis vraiment désolé de pas le trouver comme ça, mais donc ça c'est un truc que tu aimerais faire vraiment, ou pour l'instant. Je sais que pour l'instant, avec la thèse, tout ça, t'as peut-être pas trop le temps, mais genre à terme, justement, aller vraiment au cœur de ces studios-là, de ce point de vue-là, ou peut-être de, au bout, après tes recherches, ne pas rester dans les recherches et aller de l'autre côté. C'est un truc qui te tenterait, ça, par exemple, de passer du côté du développement?
Alors là, c'est une question compliquée parce que j'ai enfin plein de projets en même temps, faire plein de trucs en même temps, ce qui fait que je dors pas beaucoup et que je travaille énormément. C'est aussi pour ça que je travaille 7 jours sur 7. Mais ouais, ça me plairait bien de faire un reportage, etc. Mais il y a encore ce syndrome un peu de l'imposteur là où qui me fait me dire est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis légitime pour faire ce genre de truc? Donc j'ai très envie de le faire, mais ça fait un peu peur. Il y a rien à faire. Et puis du point de vue du temps. C'est sûr que pour le moment, j'ai pas le temps de faire ce genre de truc. J'adorerais, mais c'est difficilement justifiable de partir en pleine semaine, aller filmer de développement de jeux vidéo, etc. Si je peux pas le lier, en fait, ici, quand je suis parti en Suisse, j'ai pu le lier à mon travail. Pourquoi? Parce que, bah, je suis allé nouer des liens avec des laboratoires de recherche. Donc, ça entrait tout à fait dans le cadre de mon rôle de chercheur, et j'ai assisté aussi à une conférence, donc une journée d'études sur Fortnite, ce qui était très 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 cool d'ailleurs. Mais si c'est juste pour ma chaîne, ça va être très compliqué de justifier ça du point de vue de mon travail. Je peux pas me permettre de juste dire ah bah tiens, je prends 2 jours et je m'en vais, je vais filmer des studios. Non, il faut que ce soit justifié et que ça entre dans le cadre de mes recherches aussi quoi. Mais peut-être plus tard, ce serait pas
C'est
mal.
vrai que quand je pose la question, je pensais plus vraiment forcément à la chaîne, mais plutôt à l'avenir. Alors soit par le Liège Game Lab, si ça grandit encore plus, ou même toi, voilà, te lancer dans quelque chose de plus professionnel. C'était plutôt dans ce cadre-là que je partais en fait, que à la chaîne, à moins que ta chaîne, je te le souhaite, hein, explose, que t'aies plein d'abonnés, que t'aies des millions
Ça
d'abonnés,
sera.
et que en fait après tu puisses vivre grâce à ta chaîne. Ça, je te le souhaite, hein. Je pense que le contenu serait super intéressant. Mais bon, je suis pas le meilleur au niveau des pronostics, tu vois. Ne me demande pas dans l'épisode de ce soir de Game of Thrones qui c'est qui va survivre, parce que je vais te dire un mec qui va forcément mourir. Je suis assez nul pour ça, donc je préfère pas te porter la poisse, tu vois. Donc voilà, mais c'était plutôt dans ce sens-là que je pensais. Mais effectivement, ça serait un truc, on va dire, ça serait un rêve de plus que tu pourrais à terme, avec peut-être plus de temps, ou des semaines, ou il y a 10 jours, peut-être faire.
Mais non, au niveau de passer de l'autre côté, ça me plairait bien en fait de travailler comme dialoguiste ou quelque chose comme ça dans le domaine du développement, ce serait très cool. Mais mon projet principal, c'est quand même de devenir professeur. J'aimerais vraiment travailler dans le milieu universitaire, continuer à faire de la recherche et donner des cours parce que c'est deux volets de mon travail. Donc c'est les deux volets principaux et c'est deux volets que j'adore. Contact avec les étudiants, le fait de transmettre quelque chose, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et surtout, je voudrais bien refaire, en fait, pourquoi j'ai envie d'être prof, c'est surtout pour refaire ce qu'on a fait avec moi, en fait. Quand je suis arrivé à l'UNIF, faut savoir que j'étais un des pires étudiants qui existent, quoi. J'étais nul, j'avais une moyenne de 3 sur 20, en fait, dans ma première année d'UNIF. Les professeurs, alors il y en a quelques-uns qui m'ont dit, Pierry, laisse tomber, tu finiras pas ton bac, c'est impossible, t'arriveras jamais au bout. Après, quand je suis arrivé à la fin du bac, je me suis dit, je veux faire un doctorat, j'en ai parlé, on m'a dit, Pierre-Yves, laisse tomber, doctorat, c'est hors d'atteinte, tu n'y arriveras pas. Mais j'ai eu certains professeurs, en fait, qui m'ont motivé, un truc de fou. Ils m'ont motivé, ils m'ont donné le goût d'apprendre, ils m'ont donné le goût de découvrir plein de nouvelles choses tous les jours. Et surtout, ils m'ont donné le goût de me dépasser. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de reproduire, en fait. J'ai envie aussi s'il y a quelqu'un qui est un peu perdu comme moi je l'étais au début de mes années d'UNIF et qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie et où il veut aller, ben j'ai envie de potentiellement motiver quelqu'un et de contrer cet effet de démotivation quand on se prend un mur dans la tronche. Ben c'est un truc que j'ai envie de refaire.
Ouais, mais tu vois, c'est un truc qui est lié aux jeux vidéo, tu vois, c'est comme quand les mecs, c'est trop dur et tout ça, et que tu continues, tu vois, chose que je fais pas, moi, parce que j'ai la flemme. Mais en fait, ce côté de, non, mais ce côté de partage, ça, je trouve ça, de transmission, c'est hyper important, mais c'est lié de toute manière à la façon dont tu transmets déjà par tes textes, sur ta chaîne aussi, ça se ressent. Et je suis d'accord avec toi, de toute façon, le jeu vidéo, c'est aussi une transmission, parce que c'est pas que, en fait, tu transmets une histoire, tu transmets une sensation, un feeling, du fun ou pas, mais c'est ça, en fait, parce que souvent, quand tu rentres en, jouer à un jeu, en fait, c'est interactif. Bon, les œuvres d'art sont toujours interactifs. Après, là, c'est vraiment interactif parce que tu mets tes mains sur la manette, tout ça. Mais c'est rentrer en interaction avec un jeu, mais qui dit avec une création, dit avec des créateurs et des créatrices. Donc, t'as déjà ce côté-là. Et je comprends tout à fait cette envie, après, aussi, de manière générale, de transmettre et ce que tu disais, c'est vachement intéressant. J'écoutais une vidéo, je sais plus qui c'est qui disait ça, et j'avais trouvé cette phrase super bien, et ça paraît tout bête. Je crois que c'était Troy Baker. Je regardais une vidéo de Troy Baker, donc l'acteur qui double par exemple Joel dans The Last of Us, et encore il a fait plein de rôles. Et il parlait justement de ça, et il disait que une des phrases qu'il aimait le plus, et je pense que c'est ce qu'on pourrait dire à des personnes comme toi à l'époque, ou après des gens qui des fois pensent que ils sont pas légitimes pour quoi que ce soit, pour des études. Toi par exemple, tu dis je suis pas légitime pour parler de jeux vidéo. C'est toujours cette peur-là, tu sais, comme si on devait s'excuser en fait, alors que t'as pas à t'excuser d'être. Et en fait, sa phrase qu'il avait dit, qu'il adorait, c'était la phrase I am enough. Je suis assez, en fait. Et c'est vrai que ça veut tout dire. Et je trouve que
Ouais, clairement.
c'est vraiment ça, en fait, c'est d'expliquer aux gens, oui, tu es assez, tu es complet, t'as pas à t'excuser de faire les trucs comme ça, et vas-y, quoi. Et c'est vrai que c'est vachement bien, je trouve, d'avoir des gens comme toi, qui ont cette envie on a donné, de partager, et d'aider, en fait, tout simplement. Enfin, je pense qu'en fait, on s'aide jamais mieux soi-même que quand on aide les autres aussi, quoi. C'est un peu ce
Ouais,
qui fait,
clairement.
enfin, on est un animal social, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc toi, t'as quand même vraiment ce côté, même si le côté créateur. Alors, dialoguiste, c'est un truc qui m'intéresserait, donc je préfère passer devant toi, tu vois. S'il y a besoin de dialoguiste, tu restes dans les trucs. Parce que moi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, coder ça, je suis une brêle, mais par contre, écrire des histoires, écrire des persos, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais par contre, donc toi, il y a quand même vraiment ce côté, le côté universitaire, enfin, d'un côté éducation et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, c'est vraiment, on va dire, ton point central quand même, en fait.
Ouais, clairement, le côté recherche, c'est le petit plaisir, je vais dire, plus égoïste d'apprendre des choses pour moi et d'apprendre, enfin, d'aimer découvrir de nouvelles choses. Et le côté enseignement, c'est le côté où j'aime vraiment partager des trucs et soutenir les gens qui en ont besoin, en fait. C'est plus ça. Par exemple, moi, dans mon rôle d'assistant, j'ai souvent des petites classes pour le moment. Je donne des cours de remédiation. Bah, sur une classe de 60 personnes, généralement, il y en a peut-être 4 qui viennent à mes cours. Et souvent, on me demande, bah, c'est pas un peu frustrant ou quoi? Ben, en fait, non, parce que les 4 qui viennent, ce sont ceux qui ont besoin d'aide et qui sont volontaires. Et c'est ceux-là que j'ai surtout envie d'aider, en fait. Je trouve ça vraiment cool de ce volet-là de mon métier, c'est vraiment très cool. Et j'essaye aussi de transmettre ça aussi un peu dans les vidéos. Bah, j'aime apprendre des choses aux gens. Y a rien à faire, c'est cool.
Non mais t'as pas à t'excuser de vouloir apprendre des choses aux gens. Et quand tu fais tes cours, t'as aussi, bon je pense que t'es plus calme, mais t'as aussi quand même des petites saillies comme ça avec ton second, troisième, je sais pas à quel degré se situe ton degré en fait, mais.
Alors c'est assez marrant que tu demandes parce que je crois qu'en fait tout le monde me considère un peu comme un professeur tournesol. C'est-à-dire que ouais clairement je suis très dynamique en fait comme quand je donne cours, je fais énormément de blagues, c'est pas des blagues que je prépare ou quoi, c'est naturel quoi, je fais des blagues pendant le cours. Alors parfois c'est un peu bizarre, du coup les étudiants tu sais quand ils sont en bac 1 en première année de bachelier, ils arrivent et ils tombent sur moi, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, qu'est-ce que c'est que ce mec qui gesticule dans tous les
En
sens et
fait, il pense que
qui...
t'es pas le prof, que t'es le mec qui est venu réparer la machine à café qui s'est incrusté dans la classe. Hein.
Voilà, limite, c'est ça. Et du coup, ouais, non, clairement, dans mes cours, il y a une grosse composante humour que je trouve, en fait, assez importante parce que c'est... Enfin, les cours à l'UNIF, c'est... Parfois c'est chiant quoi. Enfin, on arrive, les gros cours ex cathedra où on arrive, on donne la matière sans passion, sans rien, on transmet rien, on donne juste de la matière. Moi j'aime bien transmettre un petit peu d'humanité en fait dans ce que je donne. J'ai quelques anecdotes qui sont très drôles. La dernière fois j'ai donné cours de jeux vidéo il y a quelques semaines et je me suis pris un fou rire pendant que je donnais le cours parce que j'ai vu un de mes collègues qui j'ai vu Pierre Ivurel en fait à l'arrière de l'amphithéâtre qui était tout à l'arrière en fait et il a commencé à se marrer à cause d'une de mes blagues et en le voyant avoir un fou rire j'ai commencé à avoir un fou rire aussi et j'arrivais plus à donner mon cours quoi. C'est des trucs, enfin je trouve ça exceptionnel quoi, de pouvoir être assez libre à l'école et à l'UNIF pour pouvoir avoir des moments comme ça où tu commences juste à rire, les étudiants ils se marrent aussi avec toi parce qu'ils te voient te marrer et ils se disent ouais, c'est louche, et voilà, c'est drôle.
C'est cool ça. Et d'ailleurs, il y en a qui savent que tu as une chaîne, tout comme ça, ils viennent te voir, qui viennent te checker, parce que maintenant, tu sais, les gens checkent tout sur Internet. Ou alors c'est juste moi qui suis un gros stalker, mais j'espère pas. Donc dis-moi que oui, ils font pareil.
Alors, en tout cas, s'ils font pareil, ils me l'ont pas dit. Le seul truc qui m'est arrivé une fois qui était assez drôle, bah, le truc c'est que je suis aussi traducteur professionnel, donc je suis traducteur indépendant, traducteur complémentaire, enfin indépendant complémentaire, on appelle ça comme ça en Belgique. Donc c'est quand t'as ton activité principale et puis juste une activité d'indépendant en plus après journée. Et du coup, il y a mes informations personnelles en fait qui sont sur Internet et je me suis retrouvé avec un étudiant qui m'a contacté sur mon téléphone, sur mon téléphone portable, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc c'était ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, alors pour sauter justement sur ça, sur ce truc-là de traducteur, ouais, en indépendant, ben, c'est pareil. Alors tu fais quoi? Tu fais des textes, quoi? Tout? Ça veut dire que ça va être plus des trucs encore de recherche ou tu vas faire aussi de la fiction, des trucs comme ça? C'est comment? Ou du jeu vidéo? C'est pas un truc que tu aimerais faire d'ailleurs? Traduire, je sais pas, traduire le prochain, qu'est-ce qui va sortir? Cyberpunk 2077, même s'ils ont peut-être du monde, mais ils font plein de localisation.
Alors, pour travailler sur un gros jeu, traducteur, c'est chaud. Pour te donner une idée, allez, quand tu traduis, quand t'es traducteur professionnel, tu traduis entre 2000 et 3000 mots par jour. Et quand tu regardes, genre, la taille de, allez, on va prendre, bah, l'exemple que je donne toujours, c'est World of Warcraft en 2014 avec l'extension Warlord of Draenor, ils étaient à 6 millions de mots. Donc ils ont des équipes de traducteurs absolument énormes et pour donner encore une image encore plus précise de ce que ça représente 6 millions de mots, parce qu'on dit 6 millions de mots, bah ouais c'est pas super représentatif, enfin en tout cas c'est pas clair ce que ça représente, bah ça représente c'est 12 fois la trilogie du Seigneur des Anneaux.
Ah non, mais c'est monstrueux. Moi, bah, en tant qu'auteur, je te dis déjà, même écrire 2000 mots, t'es là, ça prend du temps. Donc, effectivement, en traduire, ça va être le bordel. Non, je pensais plus à des, quand même, là, je les ai plaisantés avec Cyberpunk. Mais par exemple, on parlait de petits studios belges ou même suisses. Bah, par exemple, tu vois, pour des jeux indés et tout ça, des fois, C'est un truc que t'aimerais faire, tu vois, de me proposer, de dire, ben voilà, je peux vous aider, parce que des fois, on sait qu'ils ont, ils, ben, au niveau des budgets, tout ça, ben, ils vont sortir un jeu, je sais pas moi, un jeu en flamand, je dis ça comme ça, et le traduire après en français, pour un petit jeu indé, un truc comme ça. C'est un truc que t'aimerais faire, que t'as déjà fait peut-être?
Je l'ai déjà fait, j'ai notamment traduit Future Unfolding, un petit jeu indé, un petit walking simulator très très cool, qui m'a donné bien du fil à retordre pendant la traduction d'ailleurs, parce qu'il s'était basé sur des bouquins de 1860, ils avaient pris des citations de ces bouquins-là et j'ai dû retrouver les traductions officielles à chaque fois. Sinon, j'ai travaillé, enfin, je travaille toujours sur la traduction de Silent Hill VR. Donc un jeu en VR où on incarne un ninja comme ça, c'est un ninja cybernétique, c'est très très cool. Et en fait là, le jeu a été traduit par la communauté, c'est un truc qui est assez récurrent, hein. Les studios qui n'ont pas les moyens, ils demandent à la communauté de le traduire en se disant, bah, s'ils parlent anglais et ils parlent le français, bah, ils savent bien traduire mon jeu. Bah, ils se rendent pas compte qu'il y a vraiment toute une technique de traduction derrière, donc je repasse et je corrige en fait la traduction. Et sinon, j'ai... Il y avait un autre sur lequel j'avais un peu bossé, c'était Bear With Me. J'avais un peu jeté un œil à la traduction, etc.
Ah ouais, d'accord, donc c'est non mais c'est quand même super cool hein, de faire ça, puis ça fait participer à un jeu, enfin c'est toujours pareil, c'est un côté enfin, en plus la traduction c'est comme tu dis c'est je vais pas te l'apprendre mais je veux dire pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que c'est quand même super important et comme tu dis en fait c'est pas juste traduire les mots par exemple si un jeu je vais prendre le jeu parce que au début je l'avais pas fait par manque de temps mais à l'époque quand il était sorti il n'y avait pas de version française pour c'était Gone Home donc le Walking Simulator, je déteste cette
Ouais.
expression de Walking Simulator d'ailleurs. Faudra en trouver une meilleure. Je laisse ça à le chercheur comme toi à trouver quelque chose de mieux. Mais justement, en fait, il y avait des traductions en français et moi j'avais voulu, puis j'avais pas eu le temps de m'y mettre parce qu'en fait, ils traduisaient, mais sauf qu'il la manière dont ils traduisaient les, par exemple, les paroles, tout ça, ne correspondait pas à l'époque. C'était un jeu qui se passe au début des années 90, donc tu peux pas traduire à des expressions avec des expressions de nos jours, tu vois, sinon t'as une sorte
Ouais, non, clairement.
d'incohérence. Et effectivement, c'est ça qui peut poser problème. Et donc, effectivement, les années 1800, je suppose que ça t'a fait faire. Mais toi qui aimes apprendre, en tout cas, ça a été l'occasion d'apprendre encore une fois.
Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, mais c'était quand même, ça m'a demandé quand même beaucoup de travail et beaucoup de recherches en fait. Donc j'ai passé plus de temps à faire des recherches que qu'à réellement traduire le truc, quoi. Et à chaque fois, j'étais, si tu veux, j'étais à l'affût de toutes les possibles citations parce que ça ne provenait pas que d'un seul bouquin. Par exemple, il y avait aussi une référence à la Divine Comédie avec la citation "Toi qui entres ici, abandonne toute espérance, toi qui entres ici." Bah, il y avait cette référence-là. Il y avait aussi un truc, c'était
Donc Dante, hein, on précise la Divine Comédie, tout ça, donc qui n'a rien à voir avec le Dante de Devil May Cry.
Pardon?
Non, mais j'ai voulu faire une blague et tu me l'as pourri, mais c'est pas grave.
Ah pardon, j'ai pas
J'ai dit, c'est ce qu'il n'a rien à voir avec le Dante de Devil May Cry. En plus, je place Devil May Cry,
entendu.
j'ai joué une fois au jeu, j'aime pas ça en plus, et j'ai voulu quand même placer. Mais bon, c'est pas grave, non, de toute façon,
Je
c'est pas
suis
mon émission. Non,
désolé.
mais en même temps, c'est. En même temps, c'est toi l'invité, j'ai pas à me mettre en avant, donc je sais pas pourquoi j'ai voulu tirer la couverture à moi, bien fait pour ma gueule. Donc je te laisse repartir sur ce que tu disais.
Mais sinon, c'est quand même très marrant parce que de toute façon, dans Devil May Cry, il y a quand même une composante de la Divine Comédie, donc. Qu'est-ce que et alors de oui donc mon côté professeur Tournesol revient, j'ai oublié de quoi on parlait, les références, voilà. Donc et par exemple il y avait une autre référence mais super subtile en fait, celle-là c'était "There is no such thing as society", et en fait c'est Margaret Thatcher en fait qui avait dit ça, c'était une phrase polémique de Margaret Thatcher, et du coup bah je l'ai spoil, j'étais très fier de l'avoir retrouvé dans le truc, mais ça te rend un peu parano en fait parce que t'as l'impression que tout est une potentielle citation.
Alors, en dehors du côté chercheur, je demande des conventions type Paris Games Week, tout ça, et puis de manière générale dans le jeu vidéo, justement, comment t'aimes partager autrement que par le côté, on va dire, plus pro ou semi-professionnel, ta passion du jeu vidéo, comment tu la vis en fait, voilà, de manière plus, on va dire, quotidienne, même si quotidiennement, visiblement, tu bosses tout le temps.
Alors, c'est-à-dire que j'allais de temps en temps à des concerts, etc. Maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais j'aimerais bien aller à la Gamescom, notamment parce que c'est cool d'aller à la Gamescom et que c'est sympa et que ce serait une occasion aussi de voir toute la team. Parce que, en fait, la team de Je suis un gamer, on s'est jamais vraiment tous réunis pour le moment. Ce serait très cool de pouvoir le faire au moins une fois. Donc, ma passion, je la partage principalement avec mes potes quand je joue en ligne ou quand je joue beaucoup, par exemple, avec mon cousin dont je suis très proche et il vient encore bien à la maison et on joue à The Witness pendant des heures, s'arracher les cheveux sur des énigmes. Ça doit être pour ça d'ailleurs que je suis chauve.
Ça, c'est parce que quand tu étais jeune, tu vas me dire que tu adorais en fait les jeux LucasArts. C'est pour ça en fait. En fait, à 5 ans, tu avais déjà plus de cheveux parce que tu étais là. Ah, j'ai essayé de faire Day of Tentacles, Monkey Island, et ça y est, quoi, c'est fini, quoi.
Voilà, ça doit être ça, à mon avis. Ça n'a rien à voir avec le fait que mon père est chauve aussi. Je suis sûr que c'est les jeux vidéo qui m'ont rendu chauve.
Ah, ben ça, c'est. D'ailleurs, t'as commencé avec quoi justement? Je te coupe, je suis désolé. Au niveau des jeux vidéo, justement, tu t'es lancé avec quel jeu t'ont marqué, l'ont plus marqué quand tu étais jeune un petit peu? C'est quoi tes, on va dire, ton hall of fame du jeu vidéo ou des moments marquants? Et puis même, comment tu t'es lancé, comment t'es vraiment tombé dedans? T'as dit que t'es tombé dedans très jeune, mais en fait, avec quel type de jeu ou de console peut-être ou d'expérience à plusieurs? Parce que c'est des fois, c'est comme ça aussi qu'on tombe amoureux de jeux vidéo sans jouer avec des potes, ce genre de choses-là.
Alors moi, bah, c'était mon frère qui me faisait jouer. Le tout premier jeu auquel j'ai joué, je crois que c'était un jeu de Formule 1 ou un truc comme ça. D'ailleurs, vu que j'étais un petit emmerdeur, bah, quand je perdais, j'avais tendance à m'énerver. J'avais fait tomber son clavier, j'avais cassé son clavier, il était très fâché. Et en fait, les premiers jeux auxquels j'ai joué, bah, en fait, j'ai eu mon premier PC quand j'avais 2 ans et demi. C'était un PC One, en fait. Mon papa avait
Deux
l'occasion
ans et demi, non, 12 ans et demi.
2 ans et demi.
Deux ans et
Deux
demi.
ans. Ouais.
Ah oui, c'est
Et
précoce.
ouais, j'étais un peu précoce, ouais. Et du coup, en fait, bah, vu que je savais pas encore bien maîtriser, enfin, tu vois, avec ces PC-là, c'était très vieillot, l'interface, etc. Fallait passer par le BIOS. Et en fait, il y avait un informaticien qui avait codé tout mon PC pour que j'aille juste appuyer sur des touches, en fait, pour lancer des jeux. Donc, genre, j'appuyais sur A et ça me lançait Lemmings ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je jouais à des jeux pour enfants un petit peu, genre. Je sais pas si t'as déjà entendu
Pout pout, non pas
Pout-Pout,
du tout, mais tu vas me dire ce que c'est.
c'est un... En fait, c'est un jeu où tu... C'est un point and click, en fait, pour enfants, où tu incarnes une voiture mauve, comme ça, qui boit de l'huile de moteur et des trucs comme ça, dans ses céréales. Enfin, c'était un peu loufoque, c'était assez marrant. Sinon, je jouais aussi à des jeux, mais que j'arrivais pas à terminer, mais je jouais à Prince of Persia, je jouais à Lemming, enfin, je jouais à tous ces jeux-là, et j'adorais ce genre de trucs. D'ailleurs, ma famille, enfin mes parents, eux, ils étaient habitués de me voir sur un PC. Ma famille, en général, ils passaient dans le couloir, ils me voyaient sur un PC, et ils allaient trouver mes parents, ils disaient, dites, c'est normal que Pierre-Yves, il est sur un ordi? Et je fais, bah oui, c'est normal. Oui, mais il a 2 ans et demi. Oui, bah, non, c'est normal. Et donc je jouais beaucoup sur ce PC-là. Puis ensuite, j'ai eu la Nintendo, Super Nintendo. Là, j'ai eu quasiment toutes les consoles jusqu'à la PS3. Donc, quand on arrivait à la génération de la PS3, j'ai plus toutes les, tout, enfin, vraiment toute la collection de consoles, quoi. Et j'ai commencé à me concentrer juste sur PS3, PS4 et PC.
Donc à l'origine t'étais donc t'as fait console mais t'es toujours resté aussi un peu sur PC, enfin t'as toujours on va dire
Ouais.
tourné entre
Je
les
me suis
deux.
toujours vraiment intéressé au PC. Je bricolais un petit peu quand j'étais petit. Je m'amusais, style, à foutre des petits chevaux de Troie sur les PC de mes potes, et je m'amusais à ouvrir leur lecteur CD de loin, tu vois. Avec ma mère aussi, je m'amusais à faire ça. J'ouvrais le lecteur CD, j'entendais ma mère qui disait « Pierre, il y a un problème avec mon ordinateur! » J'ouvrais, je fermais le truc, j'éteignais son écran. Enfin, j'aimais bien chipoter.
Ah là là, impeccable. Je vois ça, c'est bien. C'était pas chiant du tout. Voilà, bah c'est cool après. Et donc là, en fait, au niveau du jeu vidéo, alors on va pas rentrer dans des grandes discussions, mais actuellement, justement, d'ailleurs, puisque tu parles des consoles, des PC, donc c'est vrai que souvent, c'est l'occasion d'avoir des. C'est un peu les modes, un peu, c'est comme les supporters en foot, tu vois, t'as chacun qui prêche pour leur chapelle et ça rentre toujours avec des boulets qui sont une minorité, mais qui sont la plus vocale et la plus toxique.
Ouais.
D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi que tu regardes ça comment justement ce côté-là moins pour le coup dans le partage mais plus on voit quand même il faut pas se mettre la tête dans le sable tous ces côtés-là autour du jeu vidéo ben où voilà t'as encore des problèmes alors les querelles sur les consoles c'est déjà un truc c'est un peu con-con mais après tout ce qui va être plus ben au niveau des problèmes par rapport à tout ce qui va être de la représentation tout ça c'est des trucs que tu regardes déjà d'un point de vue du chercheur ou analytique, ou c'est pas forcément le sujet qui t'intéresse le plus.
Bah c'est quelque chose, c'est ce sujet auquel je suis assez sensible, mais plutôt d'un point de vue personnel, parce que ça dépasse un peu mon expertise de chercheur. Je suis pas en sciences sociales, quoi. Je suis en traductologie, je suis en langue, ça se rapproche plus de la linguistique qu'autre chose. Mais ce sont des choses qui sont importantes pour moi aussi, et que j'apprécie pas, style la représentation des femmes dans le jeu vidéo, ou ces communautés un peu toxiques, un peu quand on voit la problématique autour du Gamergate et tous les machins comme ça. Enfin, moi, ça me rend complètement dingue, quoi. Et ce sont des choses. Bah, je sais pas si tu avais lu une fois, j'avais publié un article là-dessus, c'était Longue vie au Mac Gaming, où je pétais littéralement un plomb parce que y avait trop de capitalisme dans les jeux vidéo et trop d'anti-féminisme, etc. Ça me fatigue, ce genre de truc qui me fatigue et j'aime pas du tout.
C'est pour ça que je te posais la question en fait, c'est parce que je l'ai relu justement en préparant l'émission. Après, je suis en accord avec ton point de vue, hein. Mais justement, c'est parce que je l'ai relu en préparant l'émission. C'est pour ça que je voulais te lancer un peu rapido sur le sujet, mais je pense que c'est toujours bien quand même d'en parler parce que y a des avancées, mais voilà, faut pas non plus croire arriver. Il y a quand même à chaque fois, je dirais pas tous les jours, quoique. Si on avait envie, oui, tu te rends compte qu'il y a encore et pas dans la représentation, puis après représentation in-game et représentation dans l'industrie, quoi. Tu vois,
Aussi, ouais, c'est
il y
encore
avait
deux
les
choses
joueurs, les
différentes.
joueuses,
Enfin,
ouais.
les enjeux sont, enfin, y en a, les enjeux sont énormes, quoi, de ce point de vue-là. Mais, voilà, j'aime bien. En fait, il y a, de toute façon, dans la communauté gaming, je vais dire, y a plein de communautés différentes. En fait, il n'y a pas une seule communauté, comme on voudrait nous le faire croire quand on lit des articles dans la presse. Les gamers, c'était quoi le dernier article que j'ai vu passer? C'était jouer aux jeux vidéo est équivalent à prendre de la drogue dure ou je sais plus trop quoi sur je sais plus quel site. Enfin, c'est.
Ah
On
oui, ben
essaie
non, tu...
de représenter la communauté des gamers comme homogène alors que c'est super hétérogène. Il y a plein de choses. Il y a de la compétition saine dans les jeux vidéo, mais il y a aussi de la compétition malsaine. Enfin, il y a plein de choses.
Ouais, non, mais c'est certain. Et puis de toute manière, après, mais ça c'est comme pour tout. De toute manière, pour parler le plus rapidement aux gens, les gens pensent que... Je pense que c'est une erreur, en fait. Ils pensent que généraliser les choses, mais ça vaut pour tout, en fait, je crois. Que généraliser les choses, en fait, ça permet d'atteindre plus rapidement les gens. Sauf que oui, peut-être, probablement, mais c'est pas ça qui s'inscrit le plus. Moi, je pense toujours que c'est quand tu parles de l'individu, en fait, que tu atteins le plus grand nombre à terme, en fait. Parce que ce qui parle aux gens, en fait, c'est ça. Parce qu'on se reconnaît tous dans quelque chose. Je pense que c'est pour ça que les jeux fonctionnent, certains jeux, pas d'autres. D'ailleurs, c'est parce que dans l'écriture, il y a des jeux ou dans les mécaniques, il y a des jeux qui partent de quelque chose de très intime ou d'individuel, mais qui justement va toucher tout le monde. Alors que quand tu veux, tu sais, faire une recette, alors ça marche, hein, mais c'est pas pérenne, on va dire. En
Ouais,
tout cas,
bah
c'est.
ça c'est le gros problème de cette volonté de généraliser, de tout simplifier. Enfin, encore une fois, pour revenir sur le côté média et traitement des jeux vidéo par les médias, etc. Bah, il y a une grosse volonté de généralisation et de simplification parce qu'on pense que le public est pas capable d'avoir des trucs complexes et plus précis. Enfin, n'est pas capable d'ingérer ce genre d'informations. Bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça, vu qu'on simplifie tout dans les médias de consommation de masse, je veux dire, bah, les gens ont tendance à simplifier encore plus tout le temps et dans tous les domaines. Donc, dans les jeux, il y a aussi cette sorte d'homogénéisation bizarre qui se passe au niveau de la localisation de jeu, par exemple. Faut savoir qu'ils ont des sortes de canevas qu'ils veulent appliquer à tous les jeux et qui sont basés souvent sur des stéréotypes. Style, il y avait 7 ans, c'était qui? C'était Keiji Tanaka, je pense qu'il a dit un truc du genre Japanese player do not like violent video games ou un truc comme ça. Et le truc, c'est que c'est pris comme une vérité générale et on essaye d'appliquer ça à l'ensemble de la localisation de jeux. Donc les jeux violents portés au Japon, souvent on atténue la violence parce que bah, Keiji Tanaka a dit que les Japonais, ils aimaient pas les jeux violents. Alors que quand tu regardes le succès de Resident Evil, qui s'appelle Biohazard là-bas, c'est violent, quoi, et ça a eu un succès de malade. Pas vrai, ce genre d'assertion, mais on se retrouve avec une application assez mécanique et assez généralisante de paroles de gens de l'industrie qui sont assez importants et dont la parole est considérée comme. Et on se retrouve avec une homogénéisation de malade, en fait.
Ouais, mais c'est ça. Mais après, il y a ce côté-là aussi. Bah, nous, je pense qu'on l'a en France, on l'a même. Enfin, nous, par exemple, ça va même pour l'éducation, tu vois, c'est un truc qui sort du jeu vidéo. Ou ce côté, tu sais, hyper vertical dans l'information, ce qui fait qu'en fait, t'as toujours l'impression qu'il y a ceux qui savent et qui disent, ça tombe, et tu sais, plus c'est vertical, plus forcément, t'as moins de connexion entre les personnes, puisque bah, ça tombe directement dans le bec de ceux qui reçoivent, en fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, le fait d'uniformiser et de simplifier. Eh bien, habitue les gens à avoir ce type d'informations et de choses, et donc les déshabitue à creuser un peu aussi, tu vois, par facilité, quoi. Et
Ouais,
donc,
c'est ça.
c'est vrai que c'est un peu flippant, et donc, mais c'est pour ça qu'en fait, après, voilà, je parlais de ton dossier que t'as fait, c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait des vidéos, tu parles de Gabe Spectrum qui fait des super vidéos aussi, qui creuse ces sujets comme ça, il touche un petit peu à ce genre de choses-là, et c'est pareil, tu vois, On revient à ce que on disait au début sur ta chaîne et sur d'autres chaînes et sur d'autres textes, ce côté de vulgariser, mais vulgariser, ça ne veut pas dire simplifier, en fait. C'est juste, c'est mettre à portée de tous, mais en ne les prenant pas non plus pour des crétins, quoi.
Voilà, ça se voit, mais c'est super compliqué en fait de vulgariser. C'est un truc dont je me rendais pas vraiment compte avant de faire de la vulgarisation moi-même. Mais ça demande déjà de digérer soi-même la théorie, les connaissances, de vraiment les avoir, de se les être appropriées, mais totalement. Et puis d'être capable de les rendre de manière intelligible sans pour autant les rendre coconnes en fait. Un peu comme ce que font les médias. Je suis désolé, je tape beaucoup sur les médias, mais je suis pas ami avec les médias du tout. Je suis pas pote avec eux, ils m'énervent.
Non, non, mais t'as tout fait le droit, mais moi je comprends tout à fait, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en théorie c'est leur, en fait c'est ça, c'est que, en théorie c'est leur rôle, alors ils sont pas tous, c'est pareil, on va pas généraliser tous les médias, faut pas faire ce qu'on reproche, mais effectivement c'est vrai qu'en théorie c'est leur rôle, et il y a une espèce de cercle un peu vicieux pour la plupart qui s'est créé avec, par rapport aussi, je pense qu'ils ont souffert aussi de ce côté de l'internet et tout ça, et donc t'as une espèce de course dans le mauvais sens en fait, qui se génère et qui noie un petit peu les îlots, on va dire, j'allais pas dire d'intelligence, mais de bonnes démarches qui peuvent exister dans tous les domaines, que ce soit télé, presse, machin, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc je comprends tout à fait ton point de vue. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'arriver, à avoir des créateurs, des créatrices qui, ben justement, qui partagent, qui vulgarisent en faisant de la bonne vulgarisation. Et qui, comme tu dis, qui essaie de partager avec les personnes, parce que voilà, on revient toujours à ce côté de, on a des infos, on les digère, et le but c'est bien pour soi, mais c'est bien aussi quand on le partage, parce qu'avoir des connaissances mais les garder que pour soi, au bout d'un moment on tourne un peu en rond, enfin moi je pense, c'est que mon point de vue, je suppose que c'est un peu le tien aussi, d'après ce que tu me dis.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point de vue-là.
Donc voilà, bon après, histoire de finir sur une note plus légère et plus joyeuse, quels sont là les jeux justement, ou peut-être que t'as fait récemment, ou est-ce qu'il y a des choses que t'as envie de mettre en avant, soit un jeu que t'attends vraiment, ou soit je sais pas, par exemple, quel est un de tes jeux, justement on parlait tout à l'heure des Hall of Fame, mais des jeux vraiment qui t'ont marqué, tes jeux préférés, ou personnages préférés, ou créateurs de jeux vidéo que tu suis tout le temps, enfin voilà, si t'as envie de mettre un peu quelque chose en avant de manière plus, on va dire, sorte plus légère, pas forcément plus légère, mais je veux dire voilà, pour un côté un peu plus positif.
Alors, dans les jeux que j'attends, bah, je pense que c'est des jeux bah, que tout le monde attend pas mal, genre The Last of Us 2, parce que The Last of Us 1 m'avait touché incroyablement, j'avais pleuré en jouant à ce jeu-là, tellement j'avais trouvé ça vraiment très, très fort, en fait, la relation entre les personnages principaux. Mais sinon, vraiment des jeux que j'attends, à part The Last of Us 2, il y a peut-être... Vampire the Masquerade.
Bloodlines, ah ben oui,
Ouais.
ça c'est
Oh
celui-là, on
là là,
l'attendait
super.
pas, il est arrivé, et c'est les choix que, en fait c'est ça, c'est que on est peut-être pas des millions et des millions, mais il y a vraiment une base dure qui attendait ce jeu-là, qui pensait plus jamais l'avoir. Et effectivement, moi je suis comme toi, là, je te rejoins totalement. Bloodlines, quand j'ai vu qu'ils l'ont annoncé et que je voyais des gens qui disaient, je sais plus, peut-être que toi aussi ça t'a, je veux dire, ça t'a fait hérisser les poils, mais c'était pas fait exprès pour le coup. Mais quand je voyais des gens qui disaient ouais, mais le jeu machin, j'avais dit non, ta gueule, on va avoir un Vampire Bloodlines 2, quoi.
Ah ouais, clairement. Mais moi je sautillais comme un teubé, hein. J'étais là, en plus je l'ai vu sur mon téléphone, et donc j'étais là et je crois que j'étais en public et j'ai vraiment sautillé en mode ah, c'est trop bien! J'étais vraiment super content de voir l'annonce de ce jeu-là. Sinon, un jeu que j'aimerais vraiment bien. J'aimerais vraiment une suite, c'est les Black and White. Je ne sais pas si tu as déjà joué.
Alors non, j'ai pas joué, enfin je vois ce que c'est, hein, mais j'ai jamais joué. Mais alors si tu veux par contre expliquer pour ceux qui nous écoutent.
Alors c'est une sorte de, je crois qu'on appelle ça un God Game. Donc en fait on est un dieu, on est tout puissant, on peut faire tout ce qu'on veut, on a une population qu'on doit gérer, mais de manière, en fait dans Black and White, le but c'est de gérer la population de manière indirecte, donc c'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'aller construire certaines maisons, etc. Mais généralement ils font leur popote un peu eux-mêmes. On a une créature immense en fait qui fait la taille de deux ou trois baraques. Qu'on doit éduquer, donc on doit vraiment lui apprendre mais des trucs. Dans le premier, on devait lui apprendre à pas manger ses crottes, par exemple. C'était très drôle. Et dans ce jeu-là, en fait, donc le but c'est de faire prospérer sa civilisation et de battre d'autres dieux. Et alors il y a plusieurs manières de les battre, soit par la violence, donc se constituer une armée et envoyer son armée sur la tronche de la population de l'autre dieu, ou alors il y a la version non violente où on fait une ville absolument incroyable, grandiose, qui ne connaît pas la faim, la soif, la pauvreté, et qui attire en fait la population de l'autre dieu à soi, et donc les gens, on voit vraiment des gens qui se barrent comme ça de la qui viennent en groupe, qui émigrent en fait dans la ville, et alors tu les accueilles, tu leur construis des maisons, et puis alors ils entrent un peu dans le système, et du coup ça te fait une plus grande ville qui devient plus en plus grandiose. Et franchement, ce jeu est vraiment génial, et c'est surtout dans le côté un peu what the fuck que j'aimais bien ce jeu-là, parce que donc on est un dieu et on ne contrôle que sa main. Donc en fait le curseur de la souris c'est une main, et on peut style genre attraper un villageois qui a fait une connerie et le balancer du haut d'une montagne ou des trucs comme ça, et c'était vraiment très très drôle à faire. Enfin, j'ai l'impression d'être un psychopathe, mais je trouvais ça
Mais
vraiment
non,
très
non, non,
marrant.
mais en plus, c'est franchement, dit comme ça, c'est avec ça que ça donne envie. Moi, je le dis, le jeu, j'ai jamais joué, je voyais un peu ce que c'était, mais après, c'est tout. Et donc c'est un jeu qui est quand même assez ancien, maintenant, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Black and White, c'est quoi? Mais c'est même pas, c'est les années 90, non? Je crois pas que c'est en
Ouais,
2000.
clairement. Le premier, c'était années 90. Je me demande si c'était pas 98. Je sais plus exactement. Le 2 est sorti dans les années 2000. 2002, je pense. Un truc comme ça. Mais vraiment, s'il y avait un 3, mais un 3 en VR, mais fou, quoi. Je perds mon travail parce que j'y passe tout mon temps.
Ben écoute, on est sur une année où on a du Bloodlines 2. J'ai vu qu'il y avait aussi, ils avaient annoncé, ils ont teasé très doucement, mais ils ont annoncé un Stalker 2. Donc tu vois,
Ah ouais.
quand on va voir le Half-Life 3, je pense qu'après ça sera l'Apocalypse et t'auras peut-être ton Black and White 3. Ça serait à voir, on sait jamais. Et en tout cas, ouais, ça c'est, tu vois, c'est partie des jeux en fait. Pense pas forcément, ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo sur ta chaîne sur Black and White en fait. Il y aurait des What the fuck studies à faire, tu vois, des théories de le besoin de puissance ou de tout de freak control sur par rapport à Black and White, je sais pas, t'as peut-être, il y a peut-être moyen.
C'est vrai que ce serait pas mal.
Tu vois, voilà, peut-être que ce sera peut-être une des prochaines vidéos, en tout cas,
Ce
pourquoi pas.
sera un spécial dédicace à toi.
Ah ben oui, bon après je sais pas trop. Mais en tout cas, bah, je te remercie vraiment d'avoir partagé un petit peu ta passion, tes recherches et puis un peu tout ce que tu fais. C'est toujours un plaisir en fait de discuter avec toi. D'habitude, je discute avec toi via soit Twitter, soit via vidéo interposée. Enfin, voilà, on communique aussi comme ça. Mais là, j'étais content de t'avoir, on va dire, pas de visu, mais en tout cas vocalement en live. Et donc, bah, grand merci à toi, Pierre-Yves.
Merci à toi de m'avoir reçu, et franchement c'était très cool, c'était très intéressant de parler un peu comme ça, et puis on apprend aussi pas mal sur soi aussi quand on doit parler de soi, donc c'était assez marrant. Et j'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens, parce que je suis quand même, hein, ça fait, comme je te l'ai dit, professeur tournesol, ça me convient plutôt pas mal.
Bah en tout cas, bah c'est bien, en tout cas tu vois, c'est comme ça, t'as encore un cosplay à faire quand tu iras te balader. En plus, professeur Tournesol, Belgique, c'est impeccable, tu vois, tu es vraiment dans les clous, on va dire.
Ça
En tout
colle
cas,
pas mal, ouais.
non, c'était vraiment un vrai plaisir. Donc j'espère que vous, auditeurs et auditrices qui nous avez écoutés, bah, je vous remercie déjà de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivés là, si vous avez été jusqu'à la fin, ou alors vous avez sauté pour avoir les remerciements, pourquoi pas, c'est un principe comme un autre, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie vraiment et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Je ne sais pas qui sera l'invité, je ne sais pas encore ça sera, mais ça arrivera un jour ou un autre. Et en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment une nouvelle fois. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!
Salut!